Le titre de cette conférence, ce sera Béranger, chansonnier national, virgule, chansonnier populaire, point d'interrogation, puisque je vais mettre l'accent sur qu'est-ce que ça veut dire un chansonnier national. Un chansonnier populaire, on voit bien, c'est quelqu'un dont tout le monde a les airs en tête, hein, dont tout le monde connaît les chansons, dont tout le monde aussi connaît le personnage. Un chansonnier national, c'est justement une réalité plus historique, plus spécifiquement liée à la culture du 19e siècle, la culture politique et la culture populaire. Donc j'essaierai de vous montrer ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, la chanson est évidemment une source d'histoire. Il n'y a néanmoins pas beaucoup de temps que les historiens l'utilisent véritablement comme matériau. Moi, mon approche de la chanson n'est pas tellement de travailler sur le matériau chanson pour en tirer des informations de nature historique, mais plutôt de m'intéresser à la pratique chansonnière, c'est-à-dire à la façon dont les chansons vivaient au 19e siècle. Donc, par exemple, concernant Béranger, on connaît très bien le personnage de Béranger puisqu'il a fait l'objet d'une thèse, celle de Jean Touchard, à la fin des années 1960. Donc, dans cette thèse, on trouve, puisque c'est une ancienne thèse d'État, donc on trouve de façon très exhaustive la biographie de Béranger, des renseignements sur toutes ses relations avec les grands hommes du 19e siècle, puisqu'il était à la fois très introduit auprès des hommes de pouvoir et en même temps un membre éminent du Parti libéral. C'est pas sous cet angle que j'aborde les choses, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'une chanson, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'on se l'approprie, et surtout pourquoi les chansons de Béranger ont une telle place dans l'histoire de la chanson d'une façon générale, et bien sûr dans l'histoire du 19e siècle. Alors, à mon avis, cette place, elle tient à la façon particulière dont Béranger a révolutionné la chanson. Alors, ça tient aussi au fait que c'est un homme du XVIIIe siècle, donc c'est un enfant de la Révolution française, et que les pratiques révolutionnaires, au sens pendant la période de la Révolution, la façon dont on a utilisé la chanson, Béranger en a tiré profit, et c'est vraiment situé dans cette filiation. J'essaierai de vous donner quelques clés aussi là-dessus. J'ai un petit peu, comment dire, approfondi cet élément dans la conférence de ce soir, puisque j'ai vu que mon collègue Philippe Darulat avait parlé des goguettes, surtout sous la Restauration. Donc, manifestement, vous avez un peu parlé de la période révolutionnaire. Peut-être j'apporterai quelques éléments complémentaires à propos de ça. Alors, d'abord, qui est ce Béranger? Hein, tout le monde connaît son nom, mais on ne sait pas forcément beaucoup de choses sur lui. Donc, comme je viens de le dire, c'est un homme du XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1780, précisément le 19 août. Alors, c'est un homme d'extraction populaire, puisque son grand-père était un tailleur de la rue Montorgueil, donc il habitait dans le Paris du centre, pas extrêmement loin d'ici. Mais il n'a pas vécu sa prime enfance à Paris. Il a été envoyé chez une tante qui était aubergiste à Péronne, en Picardie. Et c'est là qu'il a passé son enfance jusqu'à sa 14e, 15e année, puisqu'il était l'enfant de deux personnes qui s'entendaient assez mal, donc ils se sont séparés rapidement après sa naissance, et que donc Béranger n'a retrouvé son père qu'après la mort de sa propre mère au tout début du 19e siècle. Donc c'est un enfant élevé par sa famille proche en province. C'est un enfant qui n'a pas eu une éducation très poussée, puisqu'il a été à l'école primaire. Il a fait un apprentissage chez un imprimeur. Alors ça, c'est important, puisque les imprimeurs, comme vous savez, alors comme on ne peut pas l'ignorer dans ce cénacle, c'était quand même le foyer de l'élite ouvrière. Et donc, travailler chez les imprimeurs, c'était être en contact avec le monde ouvrier, mais pas avec le monde ouvrier le moins instruit. Au contraire, avec le monde ouvrier le plus intéressé par l'intelligence, le plus instruit, sachant lire, sachant écrire dans certains cas. Donc, Béranger a fait partie de ce milieu provisoirement. Il a fait simplement un apprentissage, il n'a pas travaillé ensuite, ni comme typographe, ni comme imprimeur proprement dit. Donc il est revenu à Paris à la fin des années 90, ce qui veut dire aussi qu'il n'a pas du tout participé à la Révolution. La Révolution, pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, c'est un événement majeur, bien sûr, mais ce n'est pas un événement dont il a été acteur. Et une fois revenu à Paris, donc il a travaillé dans des emplois totalement subalternes, dont un qu'il a commencé d'occuper en 1806 et qu'il a ensuite occupé jusqu'au moment où ses chansons l'ont rendu suffisamment célèbre et suffisamment provocateur pour qu'il le perde. Cet emploi, c'était celui d'expéditionnaire dans les bureaux de l'université. C'est donc un emploi absolument sans qualification, hein. Les bureaux, comme vous savez, l'université est une création napoléonienne, c'est une administration qui est déjà importante à Paris, mais évidemment beaucoup moins en province au début du 19e siècle. Et donc Béranger, occupé à cette manutention et à ces expéditions, avait du temps pour lui. et griffonnait des chansons dans son bureau à ses moments perdus. Il n'était d'ailleurs pas le seul, puisqu'il avait comme collègue de bureau un certain Willem, qui n'est autre que le fondateur de l'Orphéon. Donc c'était un bon ami de Béranger, c'était vraiment un collègue qu'il rencontrait tous les jours, et ça explique aussi un certain nombre de choix communs entre Willem et Béranger. Donc qu'est-ce qu'il écrivait au début Béranger ? Ben, il n'écrivait pas que des chansons, il écrivait comme tout un chacun des chansons pour amuser ses amis lors de réunions festives, mais il avait des ambitions littéraires plus élevées, hein, et donc il essayait en tout cas d'écrire soit de la poésie proprement dite, et notamment des idylles, soit du théâtre. Alors, ses œuvres ont d'ailleurs été publiées de façon posthume, puisque Henri Lecomte les a éditées dans un petit volume. Mais ce qui a valu un début de notoriété littéraire à Béranger, ce sont des chansons, et notamment Le Roi d'Yvetot, qui est la première chanson connue de Béranger, qui est circulée en dehors de Paris, et qui date de 1813. Donc, cette chanson et quelques autres lui ont valu d'être intronisé dans une société très honorable qu'on appelle le Caveau, qui est une société d'épicuriens et d'amateurs de chansons. Vous en avez certainement entendu parler, surtout en ce moment puisqu'on est en train de rééditer certains textes de gastronomes et de cavistes de renom. Et donc c'est grâce à cette société que les premières chansons de Béranger ont été éditées, non pas en recueil, hein, mais à travers les publications périodiques de la Société du Caveau qui éditait les meilleures chansons tous les mois. Hein. Donc les premières chansons de Béranger connues ont circulé sous cette forme et dans son premier recueil, qui date de 1815, il indique qu'il est sociétaire du Caveau, ce qui montre bien qu'il comptait quand même sur cette notoriété pour que ses chansons obtiennent un public. Donc jusqu'ici, Béranger est un chansonnier tout à fait ordinaire. Il écrit des chansons joyeuses, des chansons à boire, éventuellement des chansons un peu coquines, mais pas de chansons politiques, sauf à penser que Le Roi d'Yvetot est une chanson politique. Bon, ça peut se discuter, nous en reparlerons tout à l'heure. Les événements politiques vont quand même orienter son parcours de façon très significative, puisque comme vous savez, 1814-1815, ce sont des moments quand même de basculement dans l'histoire politique française, l'abdication de Napoléon, son premier exil, l'occupation du territoire. Et donc, à partir de ces épisodes quand même traumatisants, Béranger commence à se spécialiser dans une forme de chanson qu'auparavant il a peu pratiquée, qui est vraiment la chanson politique et la chanson engagée du côté du mouvement. Donc la chanson qui est plutôt hostile à la Restauration, qui est en tout cas hostile à toute compromission avec les Alliés, hein, puisque ses premières chansons sont assez patriotiques dans le sens où elles manifestent son engagement national et son refus de voir le territoire national aux mains des tyrans, c'est-à-dire des monarchies étrangères que de son point de vue la Révolution aurait dû déraciner définitivement. Et c'est là donc qu'il publie son premier recueil, et c'est aussi à partir de 1815 qu'il décide vraiment de se consacrer à la chanson. Alors il a, comme tous les gens de cette période, une énorme correspondance qui a été publiée après sa mort. Elle a été éditée par un certain Paul Boiteau, qui est un turiféraire de Béranger parmi d'autres. Et donc dans les lettres, les quelques lettres conservées de cette période, il écrit notamment, je cite, « Faire des chansons, voilà mon métier, c'est dommage qu'il soit peu lucratif. » Contrairement au théâtre qui pouvait quand même apporter la notoriété, une certaine gloire même, la chanson n'en est pas dans ce cas, n'en attend aucune fortune, mais en revanche il va s'en servir pour un combat directement politique qui est donc d'affirmer les valeurs de la Révolution, d'affirmer les valeurs libérales. Donc à partir de ce moment-là, ces chansons ne circulent pas de la même façon, elles sont notamment, pour certaines, publié dans les journaux libéraux de l'époque. Deux précisions à faire qui peut-être sont inutiles pour un auditoire de votre qualité. Le premier, c'est que libéraux, évidemment, ne veut pas dire la même chose au début du 19e et maintenant. Donc ces gens ne sont absolument pas des fanatiques de la libre entreprise. Ce sont des amis de la liberté, et notamment de la liberté politique. Deuxièmement, les journaux libéraux, c'est évidemment des journaux très élitistes, on pourrait dire, par rapport à la presse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des titres qui circulent par abonnement, et qui ont un petit nombre d'abonnés, quelques milliers, quelques dizaines de milliers dans les meilleurs cas. Donc les chansons de Béranger ne sont pas publiées par des journaux qui tireraient à 300 000 exemplaires comme les quotidiens nationaux d'aujourd'hui, hein, pas du tout. Ils s'adressent donc à une élite. Le premier journal qui est publié massivement des chansons de Béranger, c'est le journal qui s'appelle La Minerve, qui comme son nom l'indique est un journal qui se situe dans la tradition philosophique. Et Béranger, donc, non seulement à ce moment-là, décide d'être un chansonnier, mais décide aussi d'utiliser la chanson pour pallier les carences de la presse. C'est-à-dire, il y a quelques chansons qui sont publiées dans ces journaux, et puis il y en a d'autres qui circulent et qui sont recopiées manuscritement par les alliés de la cause, qui sont parfois envoyées clandestinement par la frontière en passant par la Belgique ou par la Hollande, notamment envoyées dans les casernes. C'est évidemment du côté des militaires qu'on peut attendre une certaine résistance à la Restauration. Et donc, il écrit aussi « La presse est esclave, il nous faut des chansons ». Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important, mais ça, je ne doute pas que Philippe Dariula vous l'ait dit, hein. La chanson est vraiment un moyen de résistance politique, en particulier dans des périodes comme la Restauration et surtout après 1820 où la censure est quand même extrêmement sévère. Et où l'imprimerie court des dangers, c'est-à-dire on peut être poursuivi pour tout ce qu'on imprime, on peut être envoyé en prison, et d'ailleurs Béranger ne va pas manquer de l'être, hein, mais non seulement lui, mais aussi ses éditeurs, hein, ou les directeurs des journaux qui ont publié ses chansons. Donc le contexte est quand même un contexte où la provocation politique entraîne des conséquences quand même lourdes. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que c'est facile d'écrire des chansons contre le régime ou contre les jésuites, hein, je vais évidemment y revenir. Hein. Donc Béranger s'engage très clairement de ce côté-là, il encourt des procès, il les perd, donc ses chansons sont effectivement reconnues comme séditieuses, non pas toutes, hein, à chaque fois il y a une sélection de quelques chansons qui est faite. Alors elles sont séditieuses, soit parce qu'elles outragent la morale publique, soit parce qu'elles provoquent au port d'un symbole non autorisé, en l'occurrence le tricolore, je vais y revenir, soit parce qu'elles offensent la personne du roi ou l'institution, enfin le gouvernement. Donc à ces trois titres, elles peuvent être et elles sont poursuivies. Donc Béranger se retrouve en prison pour 3 mois d'abord, en 1821, puis pour 9 mois en 1829. Entre 1821 et 1829, la situation politique a bien évolué, non seulement évidemment Louis XVIII, qui est un roi qui était prêt à certains compromis, a fait place à Charles X, qui lui était beaucoup plus rigide, dirons-nous. Mais d'autre part, le Parti libéral, lui, a quand même beaucoup progressé dans le pays, notamment il a remporté des élections. Et donc, le combat de Béranger est soutenu par le mouvement politique de l'époque. Donc, ce procès, loin d'être une catastrophe, est au contraire le deuxième procès, donc le zénith de sa gloire. D'abord parce qu'il est bien nourri en prison, puisque, non pas par le gouvernement, hein, mais par les gens qui lui envoient des colis. Béranger ayant toujours vécu très sobrement, il a estimé que finalement la période de prison n'était pas du tout pour lui une période de privation, tout au contraire. Et surtout, évidemment, en 1830 se produit, Béranger d'ailleurs est un peu une éminence grise dans cette affaire, mais dès le règne de Louis-Philippe, il écrit que finalement, il n'est plus nécessaire pour lui d'utiliser la chanson pour convaincre qui que ce soit. Il écrit « Le mérite de mes chansons disparaît aux trois quarts. En détrônant Charles X, on m'a détrôné aussi. » Et donc, il décide d'arrêter d'écrire des chansons. Enfin, il écrit encore quelques chansons à l'occasion pour lui-même. Mais il fait une convention avec son éditeur, un certain Perrotin. Perrotin, que vous connaissez peut-être, puisque c'est un éditeur républicain quand même très important de la première moitié du 19e siècle, et c'est aussi l'éditeur de Wilhelm, le fondateur de l'Orphéon. Donc c'est chez Perrotin que sont parues toutes ces partitions de l'Orphéon, et Perrotin signe une convention avec Béranger en 1830, au terme de laquelle Béranger lui donne toutes ses chansons futures, hein, moyennant quoi Perrotin lui verse une petite rente, très modeste, hein, c'était 800 francs par an, donc ça prime en dérisoire par rapport à ce que l'édition des chansons va rapporter à l'éditeur, puisque ça a été vraiment un best-seller du 19e siècle. Perrotin, à plusieurs reprises, a d'ailleurs voulu modifier les données et donner plus à Béranger, mais Béranger a toujours refusé, s'est tenu dans cette honnête médiocrité. Cela dit, il a vécu assez longtemps, donc la rente viagère, malgré tout, c'est pas forcément une très mauvaise affaire, puisqu'il est mort en 1857, il avait 77 ans, c'est un âge quand même assez avancé. Donc le voilà, ayant fait dès 1830 ce qu'on pourrait appeler une retraite anticipée. Il vit en province, à Fontainebleau, puis en Touraine. Il y passe quand même quelques années. Il revient en banlieue, il habite à Fontenay-sous-Bois, il habite à Passy. Puis il se réinstalle donc dans le centre de Paris et notamment dans le 9e arrondissement. Donc sa carrière de chansonnier n'est pas fini, mais presque. Il reste cependant, grâce à ses chansons donc de la Restauration, un personnage extraordinairement populaire, à tel point que pendant la Deuxième République, en 1848, Il est élu, il ne s'est pas présenté, il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas, hein. Il y a un certain nombre d'autres cas parmi les auteurs populaires. Hein. Il est élu donc brièvement représentant du peuple, c'est un fardeau insupportable pour lui parce que ce n'est pas du tout un homme de tribune. Il a toujours d'ailleurs refusé tout rôle politique officiel ou quasi-officiel, donc il démissionne, on refuse sa démission. Bon, bref, après 15 jours, l'affaire est finie, il retourne à ses affaires. Il vit tranquillement jusqu'à 1857, où il est enterré en grande pompe, ce qui est une catastrophe, puisque évidemment ça permet aux adversaires de Béranger d'expliquer qu'en fait ce n'est pas un véritable homme de progrès, qu'il a été complètement vendu aux Napoléonides. Et donc les socialistes à ce moment-là conspuent Béranger. Une partie de l'oubli dans lequel il est aujourd'hui tient à cette affaire. Bon voilà, je vous ai résumé les grands traits de son existence, qui est quand même donc très étonnante. Puisque la gloire du personnage, elle tient aux chansons de la Restauration. Et pourquoi ces chansons donc lui ont valu une telle importance? Pas seulement parce qu'il y avait les chansons politiques, mais parce qu'à côté des chansons politiques, il y avait beaucoup de chansons qu'on appellera morales, non pas au sens où elles seraient édifiantes, mais au sens où elles décrivent les mœurs de ses contemporains. Ce sont ces chansons-là qui lui ont valu une grande popularité, qui ont été extrêmement imitées, hein, je vais y revenir, mais ce qui fait l'importance de Béranger, c'est non seulement qu'il a rénové la chanson, mais aussi qu'il a eu énormément d'émules. Et que donc le fait que les ouvriers se fassent chansonnier en grand nombre, hein, et quand je dis les ouvriers, je ne parle pas seulement des poètes de province, je parle vraiment des ouvriers parisiens, de ceux des Goguettes, justement, ça c'est incontestablement quelque chose de très important dans l'œuvre de Béranger. Donc il est le témoin, vous voyez, le témoin est l'expression d'un moment très particulier où la chanson joue un rôle politique très important et où en même temps la chanson devient une forme d'expression populaire que les gens du peuple, donc non seulement pratiquaient en chantant les chansons des autres, mais vraiment s'appropriaient en composant à leur tour des chansons sur le même modèle. Béranger, il a essentiellement joué ce double rôle, hein. Je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il est important de montrer que la façon dont lui a envisagé la chanson est vraiment dans le sillage de ce qui s'était passé au moment de la Révolution en la matière. Alors, petit rappel rapide, hein, avant la Révolution, évidemment, il y a beaucoup de chansons qui circulent dans la ville. La chanson est un genre littéraire très subalterne, mais en revanche, c'est un genre littéraire très vivant. Il y a notamment deux formes de chansons qui sont très importantes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'une part, la chanson de rue, qui existait déjà depuis l'époque moderne, en particulier autour du Pont-Neuf, hein, où des chansonniers se produisaient avec pas mal de succès de façon très régulière. À la fin du XVIIIe siècle, ces chansonniers étaient des personnages un peu hors cadre puisqu'ils n'avaient pas de corporation, contrairement à d'autres travailleurs, hein. Donc la chanson était pour eux une occupation irrégulière. Très souvent, c'était des gens qui chantaient par goût. Il ne s'agit pas d'une profession au sens d'un statut, un état, comme on disait au XIXe siècle. C'est une occupation. Et ces chanteurs se divisent en deux catégories majeures. Il y a ceux qui chantent des cantiques et ceux qui chantent des chansons gaillardes, les deuxièmes ayant généralement plus de succès que les premiers, du moins si l'on en croit Louis-Sébastien Mercier. Alors ces chansons sont des chansons que les chansonniers produisent, ils les inventent, hein, ils chantent leurs propres chansons, c'est-à-dire qu'ils produisent leurs propres paroles, mais ils ne produisent pas leur propre musique. C'est toujours des chansons sur timbre. Ce qu'on appelle sur timbre, ça veut dire qu'on prend un air déjà existant, que tout le monde connaît et qu'on écrit de nouvelles paroles dessus. Donc ce qu'on appelle le timbre, c'est la chanson initiale dont on reprend la mélodie. Alors donc la chanson de rue, ça c'est une réalité, hein. Et puis l'autre réalité du 18e qui là, pour nous, n'a plus aucune existence, mais qui à l'époque est très importante, c'est le vaudeville joué sur la scène du théâtre. Donc il y a des théâtres qui utilisent la chanson, je ne parle pas de l'opéra comique, mais les théâtres du vaudeville, c'est des théâtres donc, où on produit des toutes petites pièces, très courtes, très bâclées d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles, très drôles et qui utilisent énormément la chanson sur timbre. Donc le couplet chanté sur un air connu. Hein. On n'écrit pas de la musique nouvelle pour les vaudevilles, on reprend toujours ces chansons-là. Alors le théâtre du vaudeville est très populaire, c'est un théâtre donc qui a des amateurs dans tous les milieux. Il a été complètement rénové à la fin du XVIIIe siècle par Favart. Hein. Puisqu'avant, le théâtre du vaudeville était un théâtre quand même assez vulgaire, quand on lit les textes. Favart lui a donné quand même un meilleur ton, on pourrait dire, et puis il a aussi été à l'origine de la vogue de ce type de théâtre, Donc, pendant la période révolutionnaire, il y a plusieurs théâtres de vaudeville. Il y en a un qui s'appelle le théâtre du vaudeville, mais il y en a plusieurs autres où on joue des vaudevilles. Et c'est le cas encore dans les premières années de la Restauration. Le théâtre des variétés, le gymnase, le théâtre du Palais Royal en font partie. Enfin, c'est les plus notoires dans ce genre. Donc vous voyez, la chanson avant la Révolution a une existence populaire réelle. Hein. Elle est dans les rues, elle est dans les théâtres du peuple. Elle a aussi une existence chez les bourgeois ou chez les élites un peu différente, puisque ce qui distingue en fait le peuple et les élites de ce point de vue-là, c'est que dans les élites, on a une véritable culture de la parole, une culture qu'on entretient dans les études secondaires notamment, hein, et qu'on entretient dans sa vie professionnelle où tous les métiers qui passent par la maîtrise du discours, la tribune politique ou la tribune religieuse d'ailleurs, la chaire, la littérature et la vie politique ont partie liée donc dans les élites où la conversation est élevée au rang d'art, la chanson est aussi un talent apprécié et beaucoup de bourgeois et particulièrement de bourgeois libéraux donc cultivent cet art. C'est surtout les chansons satiriques qui font l'objet d'une pratique appréciée. La chanson à boire est pratiquée aussi mais moins, hein, elle appartient davantage donc au répertoire populaire. Mais je vous dis ça pour vous montrer que vraiment la chanson au XVIIIe siècle est vraiment partout, et elle est surtout quelque chose qui passe d'une classe à l'autre, hein. C'est pas approprié par des milieux particuliers, c'est vraiment des produits qui circulent des élites au peuple et réciproquement, puisque ce sont parfois des airs populaires qui vont monter sur les théâtres, être appréciés par un public un peu distingué et puis devenir des airs de cour, et le contraire joue aussi. Donc la chanson est un vecteur qui circule mieux que d'autres. Là, j'ai parlé surtout du cas parisien. Bien entendu, la chanson existe aussi hors de Paris, en province, mais sous des formes assez différentes. Donc, les paysans, par exemple, ont un répertoire qui est beaucoup issu du chant d'église, c'est-à-dire les timbres, ça va être les musiques des cantiques qu'on leur apprend à chanter, puis on peut évidemment broder d'autres paroles. D'ailleurs, on ne s'en prive pas sur ces timbres, voire des paroles tout à fait profanes, tout à fait étonnante même pour certaines, hein, sur des airs de cantiques. Et puis l'autre partie du répertoire populaire paysan, il vient de l'armée, puisque bien entendu, on est dans une armée de mercenaires, les cadres dirigeants sont nobles, mais les soldats de base sont des gens du peuple qui se sont engagés pour gagner leur vie, et l'armée est aussi un foyer de chansons important. Donc, du point de vue de la création, de la production de chansons, c'est ces deux formes-là qui sont les deux formes majeures. Bien entendu, le peuple s'approprie aussi les chansons qu'il entend proférées par les chanteurs ambulants, par les chanteurs de rue, et puis les chansons qu'il trouve dans des recueils de colportage, où jamais la mélodie n'est imprimée, évidemment, d'un point de vue typographique, ça serait un peu compliqué. Il y a les paroles, et puis on indique sur l'air de la mère Michel, Cadet Roussel, Malbrouck, enfin ce que vous voulez. Alors dans tout ça, la chanson politique est un répertoire très minoritaire, et pas proprement populaire, plutôt au contraire utilisé dans des milieux plus circonscrits. Donc comme je vous disais, la chanson donc circule d'un milieu à l'autre. Je vais vous en donner rapidement deux exemples. Le premier, justement, c'est Malbrouck. Vous savez peut-être que la chanson de Malbrouck est un air qui est censé avoir été apporté d'abord à la cour par la nourrice du dauphin, donc au début du XVIIIe siècle, qui porte le beau nom de Madame Poitrine, pour une nourrice et magnifique. Donc elle aurait rapporté l'air de son village natal, et puis cet air s'impose à la cour, puis à Paris. Plusieurs pièces de théâtre donc l'utilisent, notamment Beaumarchais l'utilise dans Le mariage de Figaro pour la romance de Chérubin. Donc Malbrouck est, au moment de la Révolution, un air très connu à la suite de tout ce parcours. Bon, l'autre exemple, c'est dans l'autre sens, hein, donc là c'était un air populaire qui devient un air à la mode. L'autre exemple, c'est le Saïra. Vous connaissez tous le Saïra des travailleurs de la fête de la Fédération. Le Saïra est écrit sur un timbre qui s'appelle le carillon national. Donc cette musique est au départ une musique de danse, c'est la musique d'une contredanse d'un certain Bécourt qui était violoniste dans l'orchestre du théâtre de Beaujolais, donc dans un orchestre aristocratique hein, qui existait à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Quant aux paroles que vous connaissez, elles ont été donc écrites sur cet air, qui n'était pas un air de chanson, qui était donc un air purement instrumental, un air de danse. Elles ont été écrites donc à l'occasion de la fête de la Fédération par un chanteur de rue qui s'appelle Ladré. Donc voilà, ça c'est l'exemple inverse, une musique utilisée dans un contexte plutôt aristocratique qui est appropriée par le peuple et qui devient la mélodie d'une chanson populaire. Les paroles dont je parle, hein, c'est la première version du Saïra, c'est-à-dire pas la version violente que vous connaissez, les aristocrates à la lanterne, mais la version intérieure. Malgré les mutins, tout réussira. Donc une chanson très optimiste. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, il faut savoir que dans la collection NRF Poésie, il y a tout un petit volume qui a été édité par Michel Delon, qui s'appelle Le chansonnier révolutionnaire, où on trouve aussi quelques notices intéressantes sur les chansons révolutionnaires. Donc voilà, avant la Révolution, la chanson est très importante, mais ne joue pas un rôle politique majeur. Elle peut jouer un rôle politique ponctuel, hein, on peut évidemment faire des couplets contre tel ou tel, mais ce n'est pas un genre à part entière, la chanson politique, et encore moins la chanson patriotique. Ce que change la Révolution, c'est justement ça, c'est-à-dire dans un premier temps, la Révolution libère la chanson. On a maintenant le droit de chanter dans les rues et à pleine voix, dans les théâtres, dans les assemblées, où on veut, tout ce qu'on veut, y compris des couplets extrêmement violents. Hein. Donc c'est l'expression libre, l'expression chansonnière libre, dans un premier temps qui est assez bref, comme toujours, hein, puisque au moment des révolutions, il y a une phase d'ouverture, puis après rapidement on se rend compte que le régime est en danger, donc l'étau se resserre. Et donc à partir de 92, les différentes assemblées ou les différents comités qui ont dirigé le pays font un usage tout à fait propagandiste de la chanson, c'est-à-dire qu'à partir de 92 et surtout de 94, le gouvernement suscite des chansons, demande, donc organise des concours, donne des récompenses aux gens qui écrivent des chansons patriotiques ou de façon plus générale des chansons qui véhiculent les valeurs révolutionnaires. Donc la chanson, et ça c'est tout à fait nouveau, hein, obtient pendant cette période un rôle civique très important. Alors on compte sur les chansons justement parce que, comme on s'adresse à une population illettrée, eh bien il est beaucoup plus facile de faire passer des idées par ce moyen que par le texte, l'imprimé. Mais bien entendu, le comité d'instruction publique qui est à l'origine des principaux recueils édite aussi les chansons, essaye de les diffuser de façon à ce qu'elles soient chantées dans les fêtes nationales, dans les différentes circonstances, au 14 juillet ou à d'autres fêtes. Donc il y a pendant la Révolution un usage vraiment politique du médium chanson intéressant. Alors là aussi, hein, il y a des ouvrages de référence sur le sujet. Le principal, c'est un livre de Constant Pierre, qui était donc le bibliothécaire du conservatoire sous la Troisième République, et qui a édité une anthologie, mais aussi un livre très érudit sur les hymnes et chansons de la Révolution, un livre remarquable que vous pouvez lire sur Gallica. Alors, toutes ces chansons de la Révolution, donc j'enfonce le clou, hein, c'est des chansons sur timbre. Je parle des chansons. Les hymnes, c'est différent. Pour les hymnes, donc, ce sont des chants destinés à la célébration avec une dimension beaucoup plus solennelle. Les hymnes, au contraire, font l'objet d'une composition musicale spécifique dans laquelle s'illustrent les grands compositeurs, en particulier Méhul, Gossec. Donc, il ne faut pas confondre chansons et hymnes, même si les deux, au moment de la Révolution, sont chargés d'un rôle politique certain. Alors j'en profite pour dire que si le sujet du chant patriotique vous intéresse, je fais un peu de publicité pour une exposition qui vient de commencer. Elle a commencé le 9 mai à la maison Robert Schumann à Sichazel à côté de Metz, hein, qui est consacrée aux hymnes nationaux à l'échelle européenne. La maison Robert Schumann organise uniquement des événements autour de thématiques européennes. Donc cette exposition porte sur les hymnes nationaux dans leur histoire et sur l'hymne européen. Extrait de la 9e symphonie revue et corrigée par Karajan. Donc si le sujet vous intéresse, je vous incite vivement à aller voir cette exposition fort intéressante. Voilà, vous voyez, la chanson a quand même subi une mutation pendant la Révolution, et cet héritage révolutionnaire, il irrigue vraiment tout le 19e siècle. Alors pendant le consulat et pendant l'Empire, l'heure n'est pas du tout à la liberté d'expression. On revient en fait à des pratiques de la chanson beaucoup plus épicuriennes et anodines du point de vue politique. Mais justement, au moment de l'invasion du territoire, au moment de la défaite de Napoléon, puis au moment des 100 jours, la chanson reprend donc un rôle tout à fait important, justement à ce moment-là que Béranger se fait connaître. Pendant les 100 jours, la chanson participe à la lutte des symboles, et Béranger donc apporte une contribution importante à ça. Non pas qu'en 1815 il ait écrit des chansons au profit de Bonaparte, il a écrit à ce moment-là uniquement des chansons libérales, mais il va, pendant toute la Restauration, jouer quand même un rôle qui est de rappeler la grandeur de la France impériale, de rappeler aussi que Bonaparte a été l'héritier de la Révolution, contrairement au régime en place. Et sa chanson la plus célèbre, c'est les souvenirs du peuple. La version que j'ai choisie, d'abord il n'y a pas beaucoup de versions enregistrées, donc le choix a été relativement simple. C'est une interprétation de Serge Hureau, que vous connaissez peut-être, puisque Serge Hureau fait souvent des concerts qu'on pourrait appeler historiques, dans le cadre du hall de la chanson en particulier. Donc il a enregistré cette chanson dans le cadre d'une anthologie de la chanson française, dont le maître d'œuvre était Marc Robine, qui s'accompagne d'ailleurs d'une publication anthologique du texte. Hein, et c'est ça que vous allez entendre tout de suite. Je ferai le commentaire par la suite.
On parlera de ta gloire, sous le saume bien longtemps. L'humble-toi dans ta canton, ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois, dire alors à quelques vieilles, par des récits d'autrefois, mère abrégée notre veille. Bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple encore le révère, oui le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère. Grand-mère, parlez-nous de lui. Parlez-nous de lui, grand-mère. Grand-mère, parlez-nous de lui. Mes enfants, dans ce village, suivi de rois, il passa. Voilà bien longtemps de ça, je venais d'entrer en ménage, à pied grimpant le coteau, où pour voir je m'étais mise. Il avait petit chapeau, avec redingote grise. Près de lui je me troublais. Il me dit « Bonjour ma chère, bonjour ma chère. Il vous a parlé, grand-mère. Grand-mère, il vous a parlé. Il vous a parlé, grand-mère. Grand-mère, il vous a parlé. Mais quand la pauvre champagne fut en proie aux étrangers, lui bravant tous les dangers, semblait tenir la campagne. Un soir tout comme aujourd'hui, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, bon Dieu, c'était lui. Suivi d'une faible escorte, il s'assoit où me voilà, me disant « Oh, quelle guerre, oh, quelle guerre !» Il s'est assis là, grand-mère, il s'est assis là, il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là. J'ai faim, dit-il, et bien vite, je sers piquette et pain dit. Puis il sèche ses habits, même à dormir le feu l'invite. Au réveil, voyant mes pleurs, il me dit « Bonne espérance, je cours de tous ces malheurs, sous Paris, venger la France. » Il part, et comme un trésor, j'ai depuis gardé son verre, gardé son verre. Vous l'avez encore, grand-mère, vous l'avez encore, vous l'avez encore, grand-mère, grand-mère, vous l'avez encore. Le voici, mais à sa perte, le héros fut entraîné. lui qu'un pape a couronné et mort dans une île déserte. Longtemps aucun ne l'a cru, on disait qu'il va paraître. Par mer il est accouru, l'étranger va voir son maître. Quand d'erreur on nous tira, ma douleur fut bien amère, fut bien amère. Dieu vous bénira, grand-mère, grand-mère, Dieu vous bénira, Dieu vous bénira, grand-mère.
Cette chanson date de 1826, hein, donc elle n'est pas du tout une des premières chansons de la légende impériale. D'ailleurs, la légende impériale a été portée par des chansons du vivant de Napoléon et même au moment de sa gloire. Hein. Donc elle est assez tardive, mais je l'ai choisie d'abord parce que c'est la plus célèbre chanson de Béranger, même de son temps, hein, et aussi parce que ça vous donne bien une idée de ce que sont ces chansons. Donc d'abord, c'est une chanson sur timbre, alors là, en l'occurrence, l'air est un air ancien d'auteur inconnu qui s'appelle « Passez votre chemin, beau sire », ce qui laisse envisager peut-être quelque chose d'un peu pastoral ou troubadour. Et l'air, vous voyez, est quand même un air assez orné. Alors c'est un air populaire, certes, mais c'est pas un air à boire du tout. Et quant au texte, c'est un texte très écrit, et vous voyez qu'il y a une dimension vraiment épique, puisque dans quelques couplets, on raconte quand même la grandeur et la décadence de Napoléon Bonaparte. Les épisodes qui servent à structurer la chanson, puisque chaque couplet concerne un épisode différent de la vie de la femme qui raconte, mais aussi de Bonaparte, ne sont pas choisis au hasard, puisque vous avez entendu, hein, la première fois qu'elle le rencontre, c'est le zénith de l'Empire, suivi de roi il passa, donc c'est le moment 1810 où il a quasiment conquis toute l'Europe, c'est le nouvel Alexandre. Hein. L'année suivante, donc il vient d'avoir un fils, c'est donc en 1811, hein, donc encore une période tout à fait brillante, puisque non seulement il est victorieux en tant que conquérant et homme de guerre, mais la dynastie semble promise à un bel avenir. Et puis après, donc, c'est les épisodes les plus tragiques de son histoire. D'abord la campagne de France, quand la pauvre Champagne fut en proie aux étrangers. Donc ça, c'est le début de l'année 1814, avant la première abdication, la première invasion. Et puis, donc, on espère son retour, mais il ne viendra pas, il meurt seul sur une île déserte. Donc vous voyez, c'est vraiment à la fois une biographie, mais déjà une légende, puisque les épisodes sont quand même archétypaux d'une certaine façon. Et puis le personnage envisagé dans cette chanson, là aussi c'est un personnage dessiné à dessein comme un personnage plutôt sympathique. D'abord, il est en petit chapeau et redingote, hein, donc c'est pas en habit de cour, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein. C'est pas entouré de sa cour non plus, hein. C'est l'homme qui vit au milieu de ses soldats. Il est tout à fait simple, modeste, il s'adresse à cette femme du peuple sans aucune hésitation, il se suffit de peu, hein, il va manger sa piquette et son pain bis, il va même s'endormir chez elle. Bref, il est simple et bien sûr il est stoïque, hein, puisqu'il va combattre quand même seul contre tous, elle le voit passer avec sa faible escorte alors que le pays est à feu et à sang. Donc c'est aussi un personnage dont la chanson dessine la légende, une légende populaire, puisque Bonaparte c'est quand même un personnage assez ambigu, complexe, il y a d'autres formes de sa légende. Béranger donc clairement a fourni une contribution à ça. Pourquoi aussi? Parce que dans les années 1820, la lutte pour la liberté, la lutte et le regret de Bonaparte allaient de pair, ce qui pour nous n'est absolument pas évident. Je veux dire, il y a peut-être parmi vous beaucoup de gens qui voient Napoléon Bonaparte comme un tyran d'une part et un conquérant dans la démesure totale. Hein, l'image actuelle n'est pas forcément favorable. Mais au contraire, au moment où Béranger écrit, hein, Bonaparte, c'est finalement l'héritier de la Révolution qui a été balayé par la réaction. Donc c'est forcément positif. Hein. Alors, les chansons de Béranger sont plus ou moins toutes sur ce modèle, c'est-à-dire avec des textes assez élaborés, sur des airs connus qui sont souvent des airs connus mais pas populaires au sens où ils seraient d'extraction populaire, de création populaire, plutôt des airs de théâtre, beaucoup d'airs de vaudeville, à peu près les deux tiers de ses chansons sont écrites sur des airs de vaudeville, en particulier les compositions d'un certain Dosch qui était le chef d'orchestre de l'Opéra Comique. Quant à la forme du texte, hein, la forme de l'écriture, c'est toujours en vers, c'est toujours de forme extrêmement classique, avec un vocabulaire châtié. Bon, ben là, ça s'y prêtait, bien entendu, mais même dans les chansons un peu polissonnes, il ne parle jamais crûment, il y a toujours des périphrases, vous allez en entendre par la suite, hein, des périphrases, des métaphores, c'est jamais grossier, ce qui est vraiment en rupture avec la chanson épicurienne de son époque ou de ses prédécesseurs. Ah oui, je vais vous faire entendre tout de suite une chanson pour illustrer cela, c'est « Ma grand-mère ».
Ma grand-mère un soir à sa fête, devant du rayon du doigt, nous disait en branlant la tête que d'amoureux j'étais autrefois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Quoi, maman, vous étiez pas sage. Non, vraiment, et de mes affaires, seule à 15 ans, la vie d'usage, car la nuit, je ne dormais pas. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maman, vous aviez le cœur tendre, oui, si tendre, ça fait ans. L'indor ne se fit pas attendre, et qu'il n'attendit pas longtemps. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maman, l'indor savait donc plaire, oui, ça dit-me plus quatre mois. Mais bientôt j'estimais pas l'air, et si je le dis creuse à la fois. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Quoi, maman, deux amants ensemble, oui, mais chacun veut me tromper. Plus finalement qu'il ne me semble, j'épousais votre grand-papa. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maman, que lui dit la famille? Rien, mais un mari plus sensé. Tu fus connaître à la coquille que l'homme était déjà cassé.
C'est quand même une métaphore assez élégante.
Maman lui fut toujours fidèle. Oh, sur ce point, je me fais bien. À moins qu'à lui, Dieu ne m'appelle, mon confesseur n'en saura rien. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Bien tard, maman, vous fûtes veuve, oui, mais grâce à ma gaieté. Si l'église n'était pas neuve, le pain n'en fout pas moins. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Comme vous, maman, faut-il faire, et mes petits-enfants, pourquoi? Quand j'ai fait comme ma grand-mère, ne feriez-vous pas comme moi? Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu.
Merci. C'est un enregistrement que j'ai réalisé avec la complicité de deux amis, Judith Fage, la chanteuse, et Bogdan Esterenko, l'accordéoniste. Puisque justement, on ne trouve pas bien de chansons de Béranger dans le commerce, donc il faut faire soi-même ce dont on a besoin. Alors j'ai choisi cette chanson par opposition à la précédente, parce qu'elle illustre aussi un peu les deux manières de Béranger. Hein. Vous avez la chanson patriotique ou nationale, avec un style quand même épique ou sublime, et puis vous avez la chanson morale, assez amusante, jamais vulgaire, hein, encore que quand on y réfléchit, c'est quand même terrible. Et vous avez aussi des chansons plus ou moins longues. Vous avez vu, celle-là, elle est assez longue. Hein, très souvent, au XIXe siècle, on a des chansons avec 10, 11 couplets. Les complaintes étant les plus longues, elles peuvent en compter plusieurs dizaines, carrément. Et alors, vous avez vu que l'usage du refrain n'est pas le même non plus dans les deux. Alors ça, c'est vraiment une grande invention de Béranger. Avant Béranger, en gros, le refrain n'était pas un élément pivot de la chanson. Souvent, les refrains comportaient des assonances, comme dans Ma mère Michel, sur l'air du tralalala. Bon, ça ne... Alors que Béranger est vraiment quelqu'un qui est parti du refrain, il écrit ses chansons, il écrit d'abord ses refrains, puis après il écrit les couplets. Enfin, vraiment, le refrain est toujours très important pour lui, avec soit des refrains répétitifs, comme dans Ma grand-mère, hein, c'est toujours le même refrain qui revient comme une ritournelle entre chaque couplet donc racontant les différentes périodes de la vie amoureuse de la grand-mère, ou alors au contraire, comme dans Les souvenirs du peuple, le refrain évolue, puisque ça commence par les nous de lui, et ensuite, vous l'avez encore à propos du vers, et puis pour finir, Dieu vous bénira. Donc il y a une évolution formelle, la musique du refrain est toujours la même, mais le sens du refrain change, et finalement, le refrain constitue une espèce d'histoire dans l'histoire. Donc il y a souvent un travail assez élaboré du refrain. Et donc, quelle est l'originalité, pour résumer ça, du point de vue de la facture de la chanson ? C'est d'abord d'avoir trouvé une espèce de niche qui emprunte à différents genres, hein, puisqu'il emprunte à la romance, en écrivant parfois des choses assez touchantes, dans un style assez simple. Il emprunte aussi à l'ode, quand au contraire son inspiration est plus historique ou plus sublime, hein, son style plus solennel. Il emprunte aussi à la chanson, puisqu'il écrit malgré tout des chansons. Hein. Donc c'est une espèce de mixte entre ces différents genres qui évite aussi les défauts des uns et des autres. C'est-à-dire, il n'y a jamais la mièvrerie qui est quand même dans bon nombre de romances. Il y a rarement la prétention qui est dans la plupart des odes. Et c'est la chanson, mais sans la vulgarité. Donc vous voyez, il s'est quand même fait une chanson à son usage et de style assez nouveau. Alors, avec des innovations limitées, puisque c'est toujours en vers et c'est toujours sur des timbres. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ma grand-mère est aussi sur un air de théâtre hein, qui s'appelle « En revenant de Bâle en Suisse ». Très connu à l'époque de Béranger, beaucoup d'autres ont écrit sur cet air. Donc, c'est des chansons, mais nouvelles, et c'est ce qu'explique un de ses lecteurs et un de ses amateurs en 1825. Donc, cet amateur, c'est un jeune libéral très remarquable, Charles de Rémusat qui a écrit ses mémoires. Alors, c'est fantastique les mémoires de Rémusat, vraiment, vous pouvez en faire un livre de chevet, c'est absolument passionnant. Et alors il écrit à propos de Béranger, à propos de la publication de son troisième recueil en 1825, il écrit ceci. Béranger vient de publier son troisième recueil de chansons. Quand je dis chansons, c'est pour ne pas démentir l'auteur, à qui il a plu de les dénommer ainsi, car rien n'est moins gai. Rien n'est moins gai que ces chansons qui sont toutes empreintes de regrets sur la gloire passée de la France et pleines de l'indignation qu'excitent la bassesse et l'hypocrisie des hommes qui figurent au premier rang depuis 25 ou 30 ans. Vous voyez, vraiment, c'est de la chanson, mais complètement différente de ce qu'on entendait par là auparavant. Ces chansons, elles sont mises au service des idées nouvelles, soit en vantant une période passée, révolue, la période de l'Empire, soit en se moquant de ceux qui tiennent le pouvoir sous la Restauration, en particulier des nobles. Alors, sur l'air du roi Dagobert, Béranger a écrit « Le marquis de Carabas », dont le refrain est « chapeau bas, gloire au marquis de Carabas ». Tout le marquis de Carabas est une description absolument d'un personnage totalement ridicule, qui revient donc d'exil sur sa haridelle et qui s'attend à ce que tout le monde fasse des courbettes devant lui, et ce que bien sûr on lui rende tous ses privilèges, hein, et surtout qu'il ne paye aucun impôt. Enfin, c'est Béranger à la dent très dure contre les nobles, mais de façon toujours assez ironique, et il est aussi très violent contre la congrégation et d'une façon générale contre l'alliance du trône et de l'autel. Alors je vais vous faire entendre, donc toujours par les deux interprètes que vous venez d'écouter, la chanson des missionnaires, une très belle chanson qui date de 1819 et qui se comprend dans un contexte où les missions connaissaient un renouveau très très important. Donc il y avait vraiment des missions à l'échelle de toute la France, une sorte de prosélytisme catholique qui allait chercher les gens chez eux et les obliger donc à manifester leur foi catholique, parfois en marchandant les avantages professionnels ou sociaux qui pourraient en sortir, donc de façon évidemment choquante pour quelqu'un pour qui la foi ne serait pas un objet de transaction. C'est pour répondre à cette multiplication des missions que Béranger a écrit cette chanson qui s'appelle « Les missionnaires » et qui est écrite sur un air qui vient de l'opéra comique du XVIIIe siècle qui s'appelle « Le cœur à la danse ». Dans la pièce dont cet air est tiré, c'est un air donc qui sert à introduire un moment très joyeux où finalement tout le monde va s'amuser, et il l'emploie ici pour faire parler le diable en personne. Vous allez voir, c'est le diable qui est en train de donner ses ordres à ses troupes, hein, pour arriver à reconquérir le pays. C'est d'autant plus ironique de la part de Béranger que, comme vous savez, les curés, en tout cas ceux d'entre eux qui étaient le plus engagés dans le rigorisme, étaient très hostiles à la danse. Ils ne voulaient pas que les gens dansent, hein, que le peuple danse. Il y a des textes de Courrier sur ce sujet. Donc, évidemment, le fait de choisir cette formule-là, cet air-là pour porter la chanson, lui ajoute encore quelque chose.
Cinq ans, dix un jour à ses pères, on en veut à nos hordes. C'est en éclairant l'univers qu'on éteint les discordes. Par brevet d'invention, j'ordonne une mission. En vendant des prières, vite, soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu. Exploitons en diable cafard à Montville et banlieue. Nignasse, imitons les renards, cachons bien notre queue. Au nom du Père et du Fils, gagnons sur les crucifix. En vendant des prières, vite, soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu. Que de miracles on va voir si le ciel ne s'en mêle. Sur des biens qu'on voudrait avoir, faisons tomber la grêle. Publions que Jésus-Christ, par la poste, nous écrit. En vendant des prières, disons soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu. Chassons les autres baladins, divisons les familles. En jetant la pierre au monde entier, dont femmes et filles. Que le beau sexe enflammé nous chante un passage. En vendant des prières, vite, soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu. L'intolérance prendra le verre, reprendra son allure. Les protestants n'ont point trouvé d'onguent pour la brûlure. Les philosophes d'aujourd'hui déjà sentent leur routine. En vendant des prières, vite soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu. Le diable, après ce mandement, vient convertir la France. Guerre au nouvel enseignement et gloire à l'ignorance. Le jour fuit et les cagots dans ce tour des fagots. En vantant des prières, nous fait soufflons, morbleu, éteignons les lumières et rallumons le feu.
C'est une chanson quand même qui explique que les missionnaires ne sont pas véritablement inspirés par l'Esprit-Saint. Hein. Au contraire, c'est le diable qui parle par leur bouche, hein, qui démonte aussi toutes les menées des missionnaires, hein, puisqu'il est question de leur menée pour récupérer les biens nationaux, hein, il est question aussi de leur lutte contre l'enseignement public. Bon, il est question de beaucoup de choses, mais là, le but, c'est pas de vous faire un commentaire critique, c'est juste de vous montrer que les chansons de Béranger sont quand même des chansons très agressives, hein, et qui portaient les idées de la Révolution, l'éloge de la tolérance, l'éloge de l'instruction, les idées des philosophes, mais de façon quand même assez vive contre les adversaires de ces idées-là. Hein. Donc il s'agit bien sûr d'une chanson anticléricale, mais surtout d'une chanson anti-obscurantiste, et Béranger reprend donc le flambeau de Voltaire, dont il était d'ailleurs un amateur. Hein. Voilà, ces chansons vous donnent une bonne idée de ce que c'est que les chansons de Béranger sur différents plans. Hein. Les missionnaires ne sont pas la chanson anticléricale la plus célèbre. La chanson anticléricale la plus célèbre, c'est celle qui s'intitule « Les révérends pères », puisqu'elle a connu vraiment une très grande notoriété jusqu'à la Troisième République, hein, jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État. Cette chanson qui dit « Homme noir, d'où sortez-vous ? Nous sortons de dessous terre, moitié renard et moitié loup. » Donc là aussi, quelque chose d'assez épouvantable. Hein. Ils viennent vraiment des enfers. Hein. Par contre, les missionnaires, elle a connu une certaine notoriété, non pas seulement par elle-même, mais parce qu'elle a été portée par l'image. Puisque parmi les illustrateurs de Béranger, alors ça malheureusement je ne peux pas vous montrer ici, mais il y a Granville, et Granville a fait une image formidable pour illustrer cette chanson, où l'on voit les missionnaires qui sont figurés comme de grands personnages extrêmement maigres, dégingandés, coiffés d'été noir, puisque c'est les chevaliers de l'été noir, et qui dansent en ronde autour d'un feu où brûlent des livres, donc c'est vraiment un dessin extraordinaire. Certaines chansons ont circulé comme ça, c'est-à-dire les vignettes ont circulé à part des chansons et ont pu aider à mémoriser aussi l'idée des chansons ou à la dériver aussi un peu parfois. Donc voilà, tout ceci pour vous dire, vous voyez, je pense que là vous commencez à voir mieux si vous ne connaissiez pas déjà à quoi ça ressemble les chansons de Béranger et en quoi c'est des chants nationaux. Alors c'est des chants nationaux parce que ça porte des valeurs qui sont liées à l'expérience nationale, hein, celle de la Révolution et celle de l'Empire. C'est des chansons donc nationales aussi dans la mesure où, alors ça peut-être Philippe Dariula vous l'a dit, elles sont chantées donc non seulement dans les cercles libéraux, mais elles sont chantées aussi dans certaines circonstances publiques. Par exemple, les Révérends Pères étaient chantés à l'ouverture du cours de Jules Michelet juste avant la Révolution de 48 de façon vraiment systématique. Et elles sont chantées, bien entendu, dans les goguettes, donc par des ouvriers, ou par des hommes du peuple, des artisans, parce que vous voyez, c'est un terme un peu trop vague, par des employés aussi, enfin par des gens du peuple. Et dans ces soirées de goguettes, il vous a sûrement dit, donc il y a des chansons à boire, il y a des chansons d'amour, il y a des chansons plus ou moins anodines, mais la chanson nationale, et notamment les chants de Béranger, c'est le clou de la soirée. C'est-à-dire, ça monte en puissance jusqu'au moment où, à la fin, quelqu'un s'empare d'une de ces chansons et la déclame avec force, accompagnement de gestes, puisque si vous avez fréquenté le musée carnavalet, vous avez vu, il y a de magnifiques gouaches qui illustrent la vie quotidienne sous la Révolution. À un moment, on voit une tablée où les gens chantent la Marseillaise. Et on voit bien que c'est super théâtral, quoi. Ils sont vraiment en train de déclamer. Donc voilà ce que c'est que la chanson de Béranger, et voilà pourquoi cette chanson a tellement captivé ses contemporains. Hein. Alors comme l'écrit un autre commentateur, en l'occurrence Stendhal en 1825, je cite, « On voit que Monsieur de Béranger, le plus grand poète peut-être que la France possède, ne laisse échapper aucune grande circonstance, aucune grande émotion de l'opinion publique, sans exprimer dans ses vers ce que tout le monde à Paris exprime de vive voix. » Ces chansons sont donc exactement des odes nationales, elles s'adressent au sens intime des Français. Vous voyez Béranger, entre guillemets, leader d'opinion avant la lettre. Alors il a été surtout par des chansons provocantes ou par des chansons pathétiques, puisque, comme le disait bien Michelet aussi, hein, le peuple aime le sublime. Donc les chansons les plus populaires, ce n'est pas du tout les chansons les plus faciles, c'est souvent les chansons les plus graves. Et parmi celles-là, évidemment, je ne peux pas manquer de vous faire écouter Le Vieux Drapeau, sur l'air « Elle aime à rire, elle aime à boire », donc là un air populaire au sens banal du terme.
De mes vieux compagnons de gloire, je viens de me voir entouré. Nos souvenirs m'ont enivré, le vin m'a rendu la mémoire. Fier de mes exploits et des leurs, j'ai mon drapeau dans ma chaumière. Quand secourais-je la poussière qui ternit ses nobles couleurs, il est caché sous l'humble paille où je dors pauvre et mutilé, lui qui sur de vin a volé 20 ans de bataille en bataille. Chargé de lauriers et de fleurs, il brilla sur l'Europe entière. Quand secourais-je la poussière qui ternit ses nobles couleurs, ce drapeau payait à la France tout le sang qu'il nous a coûté. Sur le sang de la liberté, nos fils jouaient avec sa lance. Qu'il prouve encore aux oppresseurs combien la gloire est roturière. Quand secourais-je la poussière qui ternit ses nobles couleurs. Ça mon aigle est resté dans la poudre. Fatigué de lointains exploits, rendons-lui le coq des Gaulois. Il fit aussi lancer la foudre. La France, oubliant ses douleurs, le rebénira libre et fier. Quand se pourrais-je la poussière qui termine ses nobles couleurs, l'adhérer avec la victoire des lois. Il deviendra la pluie, chaque soldat fut grâce à lui, citoyen au bord de la Loire. Seul, il peut voiler nos malheurs, déployons-le sur la frontière. Quand secourrai-je la poussière qui ternit ses nobles couleurs? Mais il est là, près de mes armes, un instant, osons l'entrevoir. Viens mon drapeau, viens mon espoir, c'est à toi d'essuyer mes larmes d'un guerrier qui verse des pleurs. Le ciel entendra la prière. Oui, je secourrai la poussière qui ternit ses nobles couleurs.
Alors vous voyez que c'est une chanson programme, hein, puisqu'il s'interroge « Quand secourrai-je la poussière ?» et puis il termine « Je secourrai la poussière ?» Alors bien sûr, la chanson est d'autant plus importante que le drapeau était sous la Restauration interdit, donc c'est évidemment un symbole d'autant plus fort que c'est un symbole que l'on ne peut pas arborer. Et d'ailleurs, la chanson a été poursuivie en 1821 pour cette raison. Alors, comme Les Souvenirs du Peuple, elle raconte une histoire avec des personnages, hein. C'est vraiment une chanson narrative, vous voyez, ça commence avec ce vieux militaire, donc un militaire de la Grande Armée, bien sûr, hein, révoqué, misérable, qui vit dans son grabat et qui, sous son grabat, a caché le drapeau. Et puis quand il voit un peu avec ses camarades les souvenirs de la gloire et des amitiés aussi, ils lui reviennent en tête et il aspire donc à pouvoir secouer la poussière qui ternit les couleurs du drapeau. Alors, dans le texte, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le détail, mais en particulier, la formule, peut-être vous l'avez entendu sans vraiment y attacher d'importance, chaque soldat fut grâce à lui citoyen au bord de la Loire, donc c'est pas l'armée des conquérants, c'est l'armée des soldats citoyens, et c'est d'autant plus important de le dire dans cette chanson que en 1815, justement, une partie de ces soldats ont été qualifiés de brigands de la Loire, donc pour les contemporains, ça a un sens tout à fait clair. C'est vraiment une allusion à des propos du moment. Alors vous voyez aussi que le drapeau n'est pas ici considéré simplement comme l'emblème qu'on va arborer dans des conquêtes, mais au contraire, celui sous l'égide duquel va se développer le règne de la Loire. Hein. Donc il ne s'agit pas de reprendre les conquêtes de l'Europe, puisque le drapeau est fatigué de lointains exploits et l'adhérer avec la victoire, mais au contraire, il doit devenir l'appui des lois et non pas être prohibé. Donc voilà, je vous ai donné tous ces exemples. Il faut encore ajouter que le choix de la chanson elle-même de la part de Béranger fait l'objet vraiment d'une stratégie, c'est-à-dire la chanson lui permet à la fois de s'éloigner de la prétention littéraire et de l'enflure poétique, même s'il les considère à l'époque, et pas seulement par ses alliés politiques, comme un immense poète, hein, ça fait rire aujourd'hui, y compris Touchard, qui quand même juge avec un certain mépris la poésie de Béranger. Bon, il y a des louanges de Cotterie, bien sûr, mais pas seulement, c'est-à-dire il y a un vrai travail poétique. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on puisse le comparer ni à Lamartine, ni à Hugo, ni à d'autres, hein, l'enjeu n'est pas le même. Mais justement, la chanson est un moyen de faire de la littérature et de la poésie en échappant absolument à des genres qui sont contrôlés, qui sont censurés, qui sont normés. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Béranger a toujours obstinément refusé de faire partie de l'Académie, parce qu'à partir du moment où il aurait été enrégimenté, sa chanson n'aurait plus été libre. Donc la chanson est le bon moyen pour échapper à cette partie de la littérature qui est trop contrôlée. C'est un moyen de liberté politique. Et c'est aussi, et je vais finir avec ça, le moyen de parler au peuple et de lui donner surtout les moyens de trouver sa propre voix, V-O-I-X. Hein. Ce que Béranger explique bien dans une chanson qui est ligne octavo et ligne 32, où il explique qu'en gros, avant d'être un chansonnier un peu ayant pignon sur rue, il publiait dans des petits formats. Et puis, quand il a été, après 1830, il a été édité en ligne octavo, donc comme ça, mais aussi pas en in-folio, mais en in-quarto, avec des belles illustrations, enfin voilà. Donc il s'est éloigné de cette forme de production. Donc la chanson lui a vraiment permis de proposer un modèle à des gens du peuple qui voulaient trouver leur propre forme d'expression. Donc il a eu énormément d'émules. En gros, la majeure partie des poètes qui sont nés, enfin des poètes, des auteurs de chansons qui sont nés dans les années 1820 ont commencé par copier, par plagier Béranger pendant des années, hein, y compris des gens extrêmement connus de vous comme Eugène Potier, qui par la suite a adopté un style très différent, un contenu très différent, mais dont le premier recueil, La Jeune Muse en 1832, alors Potier a 16 ans, c'est quand même un péché de jeunesse, hein, et est complètement dédié à Béranger, dont la plupart des airs sont des airs de Béranger, et ainsi de suite. Donc Potier, Pierre Dupont, qui est né quelques années plus tard, donc Potier il est né en 1816, Pierre Dupont en 1821, Gustave Nadeau, qui a été vraiment un des grands disciples de Béranger, qui a mis en musique, enfin qui a écrit d'autres musiques pour des chansons de Béranger, et d'autres, en province, à Lille, Alexandre Desrousseaux, tous ces gens-là sont vraiment complètement nourris de Béranger. Et donc, Béranger, quelque part, ne se résume pas à sa propre œuvre. Il englobe tous ces gens dont il a été l'inspirateur, dont il a été pas du tout le mentor. Chacun lui envoyait évidemment ses poésies en lui demandant un critique, un commentaire. Il passait son temps à répondre à des apprentis poètes qui attendaient une lettre de lui pour pouvoir la mettre dans la préface de leur livre, si possible, la version autographe. Et alors, il a pu les toucher non seulement en écrivant des chansons politiques assez élaborées, mais en écrivant beaucoup de chansons plutôt amusantes, comme Ma grand-mère. Alors, je vais quand même vous en faire entendre une autre juste pour le plaisir. C'est une chanson qui s'intitule La chatte.
La faim qui te presse, entends-tu quelques souris? Tu veux fuir de ma chambrette pour courir, je ne sais où. Miaou, veux minette, miaou, c'est un mat. Pour toi, je ne puis rien faire, de me caresser. Sur ton mal, l'amour m'éclaire, putain, j'en veux, j'y dois penser. Je gémis d'être célèbre en prison sous le verrou. Si ton ardeur est extrême, même ardeur vient me brûler. J'ai un voisin que j'aime, mais que je n'ose appeler. Mais pourquoi sur ma couchette rêver à ce jeune fou? Miam miam, c'est de minette, miam, c'est un mat. Chasse libertine qui mène, troublant mon sang, dans un mansard de voisine, du moins, réveille Valsin. Et ce filtre à son cachet, et ma main, mon genou, rien, rien, que je m'y mène. C'est un match. Mais je vois Valsin paraître par les toits, il vient ici. Ouvrons-lui la fenêtre, toi, minette, passe aussi. Lorsqu'enfin mon cœur se prête au larcin de ce filou. Rien, rien, que ma minette, rien, trouve un matou. Rien, rien, que ma minette, trouve un matou.
Alors là, vous l'avez entendu chanter, non pas sur l'air d'origine, hein, qui est l'air de la petite Cendrillon d'Isouard, mais sur un air nouveau, écrit pour Jean-Louis Murat, parce que Jean-Louis Murat, donc un interprète actuel, a enregistré tout un disque de chansons de Béranger, avec uniquement des airs nouveaux. Alors je vous la fais entendre, parce que vous voyez, il y a des chansons légères, et des chansons aussi très théâtralisées. Alors là, dans l'édition, c'est marqué « Romance avec accompagnement de miaulement », et une autre chanson qui s'appelle « Romance avec accompagnement de gestes », enfin voilà. Il ne faut pas penser que Béranger est seulement une idole qui écrit des chansons patriotiques. En fait, on imite aussi ses chansons les plus légères, qui d'ailleurs ont aussi une originalité, c'est qu'elles sont rarement misogynes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de polissonne dans ses chansons, mais quand vous comparez ça à la production du Caveau, qui est quand même assez épouvantable du point de vue de la misogynie, vous voyez quand même une différence très nette en la faveur de Béranger, je dirais. Alors, et puis l'autre intérêt, c'est que cette histoire de rapprocher les hommes et les animaux, c'est assez fréquent dans le monde des goguettes, hein, il vous a peut-être parlé de cela, Philippe Dariula. Il y avait même dans les années 1840 une goguette qui s'intitulait Les animaux et dont tous les membres prenaient donc une sorte de totem. Hein, c'est la goguette fondée par Charles Gilles, qui est un de ces chansonniers, les Parisiens, qui a été un émule de Béranger. Alors, non seulement, vous voyez, il a écrit toutes sortes de chansons de façon à ce que chacun puisse en écrire à son tour et se les approprier, mais il a aussi écrit, et c'est la dernière chose que je veux vous dire, une chanson pour chacun, on pourrait dire. C'est-à-dire que sa production est assez variée pour qu'il y ait plusieurs facettes et que suivant les cas, suivant les circonstances aussi, on puisse aussi emprunter au répertoire de Béranger, dans certains cas un chant national, donc surtout dans des circonstances politique et public, dans d'autres cas, au contraire, un chant joyeux ou léger, hein, c'est dans les réunions de famille, particulièrement les réunions d'hommes. Et puis, il y a aussi des chansons pour les femmes, alors j'ai pas le temps de développer, hein, mais il y a des chansons qui composent vraiment un répertoire spécifiquement féminin, qui sont souvent les chansons les plus sentimentales, mais pas les plus bêtes. Hein. Il y en a des très drôles, je vous conseille vivement L'Ange Gardien, bon, j'ai pas le temps de vous la lire, mais franchement, ça vaut la peine. Alors, chacun interprétant de façon très très simple, hein, je veux dire, il faut pas penser qu'il est absolument nécessaire d'avoir une partition, un interprète, un instrument, non, pas du tout. Les gens, voilà, ils connaissent les chansons, ils se trompent d'ailleurs, ils les raccourcissent, ils modifient des paroles. Aucune importance, c'est vraiment tout à fait admis, mais par contre, il faut se les approprier, c'est-à-dire il faut les chanter avec conviction. Et quand vous lisez donc les témoignages littéraires du 19e siècle, vous voyez par exemple que pour Le Vieux Drapeau, alors il y a un texte merveilleux qui est le texte d'un vieux docteur parisien qui s'appelle le docteur Poumiès de la Cibouti, ses mémoires ont été éditées par ses filles, et il parle du Vieux Drapeau en disant qu'il chantait ça « Quand secourons-nous la poussière ?» Donc on voit bien, il le chantait à plusieurs et il mettait ça, ils accordaient donc grammaticalement la chanson de façon à en être vraiment les porteurs. Donc quand on chante des chansons de Béranger, l'important c'est pas d'être bon chanteur, c'est pas la qualité stylistique ou esthétique, c'est l'émotion, le sentiment, l'engagement du chanteur. Et donc on trouve beaucoup de témoignages qui montrent que non seulement les chanteurs, effectivement, ils étaient, comment dirais-je aujourd'hui, à fond, mais en plus, le public interagissait complètement avec eux. Hein. Le public est complètement en communion, les gens pleurent, ils crient, il y en a qui s'agenouillent à certaines chansons. Enfin, c'est très, très théâtral. Alors, ce monde, évidemment, a disparu et nous sommes certainement, en tout cas la majeure partie d'entre nous, trop timides ou trop inhibés pour nous comporter comme ça avec les chansons. Mais ce que j'ai voulu essayer de vous faire passer, c'est que Béranger certainement a été un chansonnier populaire, il a été très certainement aussi un chansonnier national. Il a été populaire au sens où ses chansons se sont beaucoup vendues, les chansons, les images, les éditions, hein. Et voilà, j'espère vous avoir montré qu'elle le mérite, en tout cas c'est mon point de vue, hein, et vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de Béranger, que je ne peux le faire dans un temps quand même relativement limité. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous demande encore quelques minutes d'attention justement pour écouter une chanson que l'un de nos auditeurs se propose de vous interpréter.
Eh bien j'ai choisi Le Roi d'Ifto. Il était un roi du bateau, peu connu dans l'histoire, se levant tard, se couchant tôt, dormant parmi un sans gloire, découragé par un défaut, dans un bonnet de coton, dit-on. Oh, 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 ah, quel beau petit roi c'était là. Il faisait ses quatre repas dans son palais de chaume, et sur un âne pas à pas parcourait son royaume. Joyeux, simple et croyant le bien, pour toute garde, il n'avait rien qu'un chien. Oh, 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 ah, 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 quel beau petit roi c'était là. Il n'avait le goût onéreux qu'une soif un peu vif, mais en rendant son peuple heureux, il faut bien qu'un roi vive. Bien lui-même à table et sans suppôt, sur chaque nuit levait un pot d'impôt. Oh, 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 ah, ah, quel beau petit roi c'était là. Aux filles de bonne maison, comme il l'avait su plaire, ses sujets avaient sans raison de le nommer leur père. Dernière, il ne levait de vent que pour lever quatre fois dans le l'eau blanc. Oh, 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 oh. Quel beau petit roi c'était là. Il n'agrandit point ses états, fut un voisin commode, et modèle des potentats, prit le plaisir pour code. Ce n'est que lorsqu'il expira que le peuple qui l'enterra pleura. Oh, 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 ah, 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 quel beau petit roi c'était là. on conserve encore le portrait de ce digne bon prince. C'est l'enseigneur d'un cabaret fameux dans la province. Les jours de fête, bien souvent, la foule s'écrie en buvant devant. Oh, 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 oh. Quel bon métier, roi, c'était là.
Donc voilà, au temps de Béranger, tout le monde aurait repris le refrain, parce que c'est quand même l'usage, hein. Et en plus, certains d'entre nous rentrant chez eux se sont dit, oh, mais justement, on vient de changer de gouvernement, ah, ben, on va écrire une chanson pour notre nouveau président sur ce thème. Donc, voilà, c'est une suggestion, hein.
Et Anne Nicolas, vous la connaissez aussi?
Ah non, 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 là je ne la connais pas.
Je vais la lire. Le Nicolas le Tsar.
Bah oui, ça j'imagine. Il avait le don de lui, mais quand même pas, voilà.
Il y avait des gens qui allaient à la messe, il y en a un dans la famille, un livre de messe et à l'intérieur sur les chansons de Béranger.
Mais vous savez que dans Ma République, il dit qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut, y compris aller à la messe. Hein, donc, avec un Béranger, c'est
un livre de messe et à l'intérieur sont toutes les chansons de Béranger.
Et pourquoi il a écrit ce Renifto? Parce que
Ben ça, on n'en sait rien, puisque comme c'est sa première chanson extrêmement connue, et d'ailleurs, enfin, les contemporains ont voulu voir une espèce de moquerie à l'égard de Napoléon, puisque le roi Renifto, c'est un roi sans ambition, un brave roi qui soucie seulement du bien-être de son peuple, donc une sorte d'anti-Napoléon, précisément. Dans Ma République, c'est pareil, quand vous la lisez ou quand vous l'écoutez comme ça assez froidement, vous dites, bon, ça va pas chercher très loin, dans Sa République, tout le monde boit tranquillement, voilà, on se préoccupe que de plaisir. Mais en fait, quand on la lit plus attentivement, on se rend compte que c'est un vrai programme politique. Donc, se préoccuper du bien-être, de l'abondance, de la prospérité, ne pas lever trop d'impôts, c'est pas seulement être un roi normal, c'est aussi effectivement avoir d'autres ambitions que la gloire personnelle et vouloir le bien-être du pays. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois. Alors pourquoi il l'a écrit, j'en sais rien, hein, mais il l'a écrit dans un moment où il écrivait pour ses amis, particulièrement pour un cercle de joyeux convives qu'il connaissait à Péronne, qui se réunissait chez un monsieur Kencourt, et il a circulé beaucoup plus que les autres chansons écrites dans le même contexte.
C'est
puisque...
des amis qui habitent Yvetot qui m'en avaient...
Ah ben, bien sûr, ils peuvent en être très fiers.
Pourquoi
le roi d'Yvetot? Ah non, ça c'est une autre question. Alors le roi d'Yvetot est déjà un personnage de théâtre, avant que Béranger s'en empare, donc c'est un peu comme... Quand on parle, nous, de Landerneau, si vous voulez, c'est à la fois un vrai lieu, mais en même temps, c'est un lieu allégorique. Donc, Yvetot, c'est ça aussi. Donc, le roi d'Yvetot, c'est pas Béranger qui l'a inventé, mais il a fait ce portrait-là à un moment qui lui a donné une saveur particulière.
Techniquement, vous avez dit qu'il commençait par les refrains.
Oui, c'est ce qu'il écrit.
On en a la preuve.
Bah, c'est ce qu'il dit. Hein, donc,
Ah, il le dit.
Oui, il le dit à beaucoup de ses correspondants, d'ailleurs, puisqu'il y en a quelques-uns qui... Alors, ça c'est assez rigolo, il y en a quelques-uns qui lui envoient des musiques nouvelles pour ses chansons. Alors, en général, il est très critique par rapport à leurs musiques nouvelles, surtout quand elles sont mal appropriées avec le refrain. Il leur explique qu'en gros, ils n'ont rien compris, que leur musique est très jolie toute seule, mais qu'avec les paroles, ça ne va pas du tout, et que l'air qu'il a choisi est bien mieux. Parce que on entend bien le refrain et que c'est ça qui compte. Donc dans beaucoup de textes, il insiste vraiment là-dessus. Oui. Voilà, ça c'est dans sa correspondance, on trouve beaucoup de choses inutiles aussi, enfin inintéressantes, il y a plein de choses. Mais quand on cherche à comprendre justement pourquoi, comment il a écrit ses chansons, on y trouve vraiment des éléments utiles. Oui.
Vous avez indiqué qu'il avait vécu longtemps dans le 9e, vous avez parlé du 3e.
Je veux parler du 9e actuel, bien sûr, parce que Béranger, c'est avant 1861, donc c'est pas dans le Paris actuel. Mais pour avoir le 9e actuel, c'est-à-dire le quartier qui est au sud de la République, il a habité dans ce quartier-là.
Oui, parce qu'il a
habité rue de Belfond, rue des Martyrs et rue de la Tour d'Auvergne. Rue de la Tour d'Auvergne, à l'angle de la rue Rosier, là où dans sa maison a été gardée par une entreprise qui a fabriqué les salamandres, les fameuses salamandres, jusqu'aux années 50.
Il y avait des enregistrements de chansons de Béranger qui ont été faits aux éditions Alpha, il y a 2-3 ans, et par le chanteur, c'est Claude Marzorati.
Ah oui, bien sûr, oui, alors...
Son jolies, son...
Ah oui, oui, bien sûr, non mais je le connais bien, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, vous avez raison. Oui, oui, non mais j'ai pas parlé de Marzorati parce que lui, c'est vraiment un chanteur d'opéra. Je veux dire, il chante, et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique lui-même. Hein. Il travaille ça comme ce qu'il appelle la chanson, le chanteur à voix, la chanson à voix. Donc, je trouve que dans les spectacles qu'il a fait, il en a fait quelques-uns à l'Opéra Comique, il en a fait aussi en province autour de Béranger, c'est vraiment extraordinaire, mais on dit que ça donne à mon avis une idée fausse de ce qu'était la chanson. Je pense que la chanson vraiment, d'ailleurs y compris aussi par le choix des accompagnements, puisque dans ce disque, il y a certaines chansons qui sont accompagnées à l'harmonium, d'autres le sont au pianoforte, enfin bon, j'ai pas voulu entrer dans trop de détails à ce propos.
Et une question rapide, oui. Quelle était la chanson qui avait valu sa condamnation en 1829?
Mais il y en a une dizaine. Donc c'est facile à savoir, puisqu'à chaque fois, les procès avec les chansons condamnées ont été publiés immédiatement après le procès, ce qui était encore une façon de détourner la censure, puisque du coup, les éditeurs ne voulaient pas les reprendre dans les nouveaux recueils, mais elles existaient à part. Et puis d'ailleurs, au procès lui-même, Marchangy a lu les chansons et tout le monde s'est empressé de les copier, de les envoyer aux journaux. Enfin, il n'y en a jamais eu autant d'éditions, enfin, en circulation. Bon, mais je crois qu'en effet, l'heure est venue de nous séparer.